Bonjour à toutes et à tous, je suis bien heureux de vous accueillir aujourd'hui pour la dernière étape de notre balade en été consacrée aux secrets et mystères de la ville de Chartres. Nous avons rendez-vous avec Véronique Domagalski, guide conférencière de l'Office de tourisme de Chartres Métropole, passionnée de sa ville et conteuse hors pair. Dernière étape, nous voici devant le portail nord de la cathédrale de Chartres.
Portail nord de la cathédrale, il y a toujours une sculpture, très curieusement, qu'on nous demande beaucoup en juin. Mois de juin, vous savez, le 21 juin, où les gens pensent qu'il va se passer des choses un peu bizarres. Et on nous demande toujours, elle est où? Elle est où? Elle est où quoi? Elle est où? L'arche d'alliance. Donc on montre l'Arche d'Alliance avec ce chariot tiré par les bœufs et on dit non, l'Arche d'Alliance n'est pas sous la cathédrale.
Il est en Éthiopie, voyons.
Voilà, mais on raconte en fait toutes ces légendes liées à l'Arche, comme il y a la légende des Templiers qui seraient venus cacher l'Arche d'Alliance ici. Donc ça, c'est quelque chose que j'évoque dans ces visites nocturnes et secrètes en remettant un peu l'église au milieu du village, hein, parce que ne partons pas trop dans la légende obscure, dans l'ésotérisme. Ici, il y a eu effectivement une commanderie templière très importante près de Chartres, à Sours. Mais les commanderies templières, c'était des fermes, des grosses fermes, puisque les templiers, c'était des financiers. Donc, ils avaient des biens fonciers qu'ils faisaient travailler et ça leur amenait des revenus pour pouvoir partir en croisade. Vous voyez, c'était un peu une source de revenus. Il y a une maison templière qui existait au niveau du palais de justice. Et cette maison templière, en fait, on sait qu'il n'y a jamais eu beaucoup de templiers là-bas. Et ça servait, en fait, presque de relais de banque. Les gens venaient faire des dons. Les gens aussi qui partaient en pèlerinage déposaient leurs richesses et on leur donnait une lettre de change. Quand ils arrivaient en Terre Sainte, ils n'avaient plus qu'à récupérer leur argent, vous voyez. Ouais, ouais. C'était des financiers.
Hein. On est loin du Baphomet.
Voilà, très très loin, très très loin. C'est un peu le côté souriant. Et j'aime bien souvent terminer sur cette note, d'ailleurs, quand on fait nos visites nocturnes, c'est que oui, il y a beaucoup de légendes à Chartres. Il y a des tas d'histoires, mais ces tas d'histoires sont liées à des petits faits historiques. Et n'oubliez pas que derrière, l'histoire se suffit à elle-même. 26 ans pour bâtir cette cathédrale, pas besoin d'avoir des templiers qui vont commencer à lancer des sorts ou avoir une arche miraculeuse. C'est le travail de personnes qui avaient la foi chevillée au corps, qui ont bâti, qui ont œuvré.
Un savoir architectural extraordinaire.
Et un savoir architectural. C'est peut-être ça le miracle, c'est pas autre chose. Vous voyez, c'est déjà pas mal, hein. Donc ici, c'était notre hôtel Dieu qui est là. Et on a aussi une visite que j'aime bien évoquer, une visite beaucoup plus contemporaine, parce que alors souvent on nous pose la question, c'est quoi cette statue? C'est une statue de Bernard Damiano. Bernard Damiano, qui est un artiste qui était plutôt dans la veine surréaliste. Et ici, donc, il représente Fulbert. Alors, on a l'impression que Fulbert est façonné avec de la glaise. Oui. Mais c'est le bâtisseur qui est évoqué, il monte sa cathédrale. Donc, sculpture très contemporaine, bon, qui a été un peu décriée quand elle a été réalisée. Hein.
Ouais, c'est la sculpture qu'on peut admirer sur le parvis de la cathédrale, car nous sommes à côté. Hein.
Nous sommes à côté du parvis de la cathédrale. Alors ici, je vais vous évoquer vraiment le contemporain de Chartres. On a cette balade qui nous entraîne depuis justement la statue de Fulbert. On parle beaucoup de street art. Moi, ce que j'aime à Chartres, c'est que nous avons des œuvres de street art, mais qu'il n'y a pas que ça. Et le street art ne prend pas des dimensions exceptionnelles.
On peut s'en féliciter quand même, non?
On s'en félicite. Et ce sont des œuvres choisies, avec des artistes de talent. Notre Chartrain, et là moi je fais vraiment une grosse promo, on a des artistes contemporains à Chartres qui ont une valeur inouïe, Kevin Picole, qui est maître verrier, travaille avec EZK, qui est un street artiste, et tous les deux ont trouvé une voie différente. Il y en a beaucoup, hein. Il y a Vincent Pascal, ils sont toute une nouvelle génération d'artistes contemporains, mais ce sont des artistes à part entière. Ce ne sont pas juste des gens qui font des graffitis. Ne pas confondre le graffiti et le graphe. Le graphe est une vraie œuvre, une œuvre éphémère, un peu comme les illuminations de Chartres en Lumière. Je terminerai tout à l'heure là-dessus parce que ça reprend, donc c'est un peu mon petit dada. Mais nos street artistes ont un vrai talent. Et je vais vous parler d'un de ces street artistes, justement, parce que nous arrivons au niveau de la fresque Jean Moulin. Fresque Jean Moulin, qui a été réalisée l'année dernière par un artiste d'origine australienne qui s'appelle Jimmy Cochrane, qu'on appelle Jimmy C, hein, dans le monde du graphe. Et Jimmy C, si vous regardez son style, c'est du pointillisme. Oui, donc il est vraiment artiste à part entière. Je l'ai vu travailler. Ce qu'il y a eu de fantastique, c'est le moment où il a réalisé les yeux de Jean Moulin. Il descendait de sa nacelle, il se mettait le long de l'ancien collège Jean Moulin, il regardait, il repartait en courant pour ajouter une touche, parce que il travaillait comme un peintre et non comme un graffeur qui va faire son pochoir tranquille. Il avait vraiment l'esprit de l'artiste. Et ça, je trouve ça prodigieux d'avoir des graffeurs de cette envergure dans notre petite ville. Parce que Jimmy C, il faut quand même savoir que c'est lui qui a réalisé à Londres le David Bowie, qui est très connu. Et ses couleurs, ce sont des couleurs très flashy, Jimmy C. C'est du rose, du bleu, du jaune. C'est pâle. Oui, sur Jean Moulin, il a respecté la photo. C'est là qu'on voit, c'est un artiste, il a répondu à une commande, un cahier des charges, et on lui a dit, non, vous faites le Jean Moulin, nous, tel qu'on l'attend, ouais. Vous n'avez pas rêvé Jean Moulin.
Il aurait été vite repéré par les Allemands, hein, rose, jaune, etc.
Oui, je pense que là, et regardez ici, alors le street artiste, c'est ça, il a eu la commande du Jean Moulin, et il a réalisé le cœur, qui est juste à l'angle de la rue Percheron. Dans son style, regardez le style pointilliste, mais dans ses couleurs à lui. Ouais. Là, c'est personnel.
C'est une déclaration d'amour à Chartres, ce cœur.
C'est une déclaration d'amour à Chartres. Je pense qu'il a beaucoup aimé la ville. J'espère qu'il reviendra parce que j'aime beaucoup son style. Ouais. Il a un style qui est très, très agréable, très chaleureux, très vivant. Alors là, voici la porte de l'Hôtel Dieu, hein, dont je parlais. Donc cette petite ruelle que j'invite les gens à arpenter parce que voilà, il y a du charme. Elle a le charme du lieu, mais c'était ici on avait la porte de l'Hôtel Dieu qui s'ouvrait, et après cette porte-là qui s'ouvrait.
C'est la rue du cimetière alors.
C'est la rue du cimetière. Ah. Il était là-bas, là. Vous voyez la voiture ? C'était là-bas. Alors, prenons ici cette rue Percheron. On est toujours dans le quartier cathédrale. Là, tiens, je vais vous évoquer quand même dans les visites nocturnes. J'en ai pas parlé. Molière. Molière n'a jamais mis les pieds à Chartres. Hein. J'insiste un peu lourdement là-dessus, même si on a cette enseigne qui s'appelle Le Molière. Très bonne table, d'ailleurs. Avec sa façade de briques rouges caractéristique. Vous savez qui était le propriétaire de cette maison ?
Absolument pas.
Le propriétaire s'appelait Michel de Champron. Alors Michel de Champron, pour vous camper le personnage, il travaillait au Parlement de Paris, il était financier. Et Michel de Champron, quand il invitait ses collègues sur la place de Paris à déjeuner, ben, il partait le premier pour leur laisser la note. Et lorsqu'il venait à Chartres, il venait en guenille. On dit même qu'un jour où il tomba malade, son épouse avait brûlé des cierges dans la cathédrale. Elle avait fait donner des messes. Et lui aurait dit dans un souffle, « Madame, il est temps que je trépasse parce qu'au rythme où vous allez gaspiller toute ma fortune. » Et donc cet homme, évidemment, a inspiré Molière pour Harpagon.
Oh, extraordinaire.
Il était très connu à Paris pour son avarice. Mais comme il habitait à Chartres, eh bien voilà, évidemment...
Ça le mérite.
Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la façade du Molière, vous apercevez l'esquisse d'un damier. À l'origine, Michel de Champron voulait faire une façade tout en damier, mais le maître maçon a dû lui donner le prix de la pierre, qui coûtait plus cher que la brique. Donc il a tout arrêté. Vous voyez, ces petites anecdotes qu'on oublie. En fait, c'est ce qu'on a voulu faire cette année au niveau de nos visites, c'est de ramener à l'humain, de faire des choses plus proches des gens, d'être moins dans la description classique, historique, mais de raconter vraiment des histoires, parce que c'est vrai qu'on avait vécu quelques mois pénibles, et même encore maintenant, on n'est pas sorti d'affaires, mais on a besoin justement de cette chaleur, de ces petites histoires qu'on peut se transmettre de génération en génération, et moi j'encourage toujours les gens, quand ils viennent à nos visites, mais partagez, dites, racontez aussi, vous êtes les rapporteurs, la mémoire. Et le violonneux de Saint-Brice, moi je suis ravie qu'il y ait eu le légendaire et d'autres conteurs et historiens qui ont ressorti le violonneux de Saint-Brice, parce que je trouve que c'est une légende absolument fantastique. Alors on sort du quartier de Notre-Dame pour revenir dans notre quartier des marchands. Et mon cher Christophe, nous allons quitter la rue du Soleil d'Or pour rejoindre la place Estienne d'Or. Mais avant, un mot quand même sur la place du Cygne.
Pourquoi le Cygne ?
Très joli nom que la place du Cygne. Eh bien, en fait, autrefois, ça ne s'appelait pas comme ça. Tenez, on va passer par là. La place du Cygne, c'était deux ruelles. Il y avait le Fort Boyau et le Cul Salé. À votre avis, c'était quoi comme activité ?
Le cul salé, bah donc des salaisons, oui.
C'était les charcutiers. Alors, charcutier, il faisait la chair cuite. Eh oui, donc les charcutiers étaient dans ce quartier. Il y avait également, on le sait, des rôtisseurs qui étaient là. Puisque Brissot, notre révolutionnaire, sa famille avait la rôtisserie qui était dans la rue. Donc voilà, c'était vraiment toutes les activités de bouche liées à la viande, ici. Alors, vous voyez...
Les cervelles, elles étaient séparées par quoi, là ?
Les maisons. Vous voyez, l'emplacement, ce que je trouve très bien dans les travaux qui ont été faits, c'est que le dallage de Pierre de Berchère correspond à l'emplacement des maisons. Là, donc, c'était la ruelle. De chaque côté, donc, on avait nos ruelles, Fort Boyau, Cul Salé.
Et ces maisons, elles ont disparu il y a longtemps ?
Elles ont disparu, c'était à partir du XVIIIe siècle, on a commencé à les détruire, et XIXe, ça en était déjà presque fini. Alors évidemment, deux maisons que je montre lors de nos visites, l'Esperluette, L'Esperluette, avec évidemment la façade Renaissance qu'on attribue à Philibert Delorme, mais bon, là, il y a des petites... on n'est pas sûr. On pense que c'est quelqu'un qui aurait travaillé avec lui, qui a travaillé là. Logis Claude Huvet, ici, avec également un graphe de ZK. Vous l'avez vu, ce graphe, regardez, là, ce joli graphe avec Dans quel monde vit-on ? Et ça, c'est ce que j'aime chez EZK, ce côté en même temps poétique et aussi de nous ouvrir les yeux. Il a utilisé la vraie fonction de l'artiste. L'artiste, c'est pas seulement pour faire beau. L'artiste, c'est celui qui nous ouvre les yeux sur autre chose. Et ça, c'est fantastique. Vous vous souvenez quand je vous parlais du niveau des caves ? Eh bien, ici...
Magnifique, cette maison, là. Maison de la voûte.
Eh bien, l'étage inférieur, c'était le rez-de-chaussée. Donc, ici, quand on se met au niveau de cette maison, bon, je le fais souvent en temps normal, là, c'est un peu plus compliqué en ce moment, mais je montre le pilier et je dis, la salle du bas, qui est pour nous une cave, non, c'était le rez-de-chaussée de la maison. Donc magnifique maison ici, hein, que j'invite les Chartrains à redécouvrir. C'est bien, comme on reste beaucoup chez soi en ce moment, c'est on peut redécouvrir notre ville. En face, on a une fresque. Alors Chartres aussi s'est fait spécialité de ses fresques murales, puisque nous avons évidemment les fresques de Bel Air. Là aussi, j'invite, hein, comme j'ai dit tout à l'heure pour Mêler le Grenet, à aller voir les fresques de Bel Air avec ces quatre bâtiments qui ont été repeints. Mais ici, c'est donc la même équipe lyonnaise qui nous a fait un tournage de film, hein, qui raconte la vie de Marceau, parce qu'évidemment, on n'est pas loin de là où est né Marceau. Et on arrive donc sur notre place Marceau avec sa colonne. Cette place Marceau qui était occupée autrefois par l'église Saint-Saturnin. Et oui, là où il y a les terrasses, c'était une église. Alors ce que je trouve toujours très drôle quand on est ici, c'est que je dis oui, il y avait l'église, mais juste en face, il y avait le théâtre. Et puis je crois qu'il y avait un bordel qui ne devait pas être très loin.
Ça, c'est tout le Moyen-Âge.
C'est tout l'Ancien Régime, on va dire. Parce que en fait, on parle du Moyen-Âge, mais sachez qu'à Chartres, on a énormément de maisons, en fait, 15e, 16e. Du Moyen-Âge pur, on en a, mais beaucoup moins, finalement. Ce que les gens appellent de vieux, d'anciens, c'est surtout 15e, 16e. On va aller de ce côté.
Avec la colonne dédié au général Marceau.
Dédié au général.
Un des plus jeunes généraux de la République, je crois que c'est sa naissante.
Oui, c'est ça. Hein. C'était un des héros de cette révolution. Il mourut à 27 ans. Il mourut en plus avec les hommages des Autrichiens. Et ça, c'est incroyable. L'ennemi qui rend hommage à un général français. Donc ça, c'est plutôt exceptionnel et il faut vraiment le noter. Donc c'est vrai que c'est plutôt sympathique.
Et puis moi qui suis originaire des Deux-Sèvres à côté de la Vendée, eh bien il a laissé un excellent souvenir pendant les guerres de Vendée en se montrant très humain. C'était un des rares à être très humain.
Et c'est ce qu'on souligne beaucoup nous, lors de nos promenades, c'est que en fait s'il était respecté de ses hommes, il était respecté de ses ennemis. Et ça, ça prouve que l'homme était valeureux. Marceau, c'est quelqu'un qui a refusé les massacres en Vendée. Et d'ailleurs, il est remonté à Paris pour partir après sur le front autrichien avec malheureusement la triste destinée qu'on connaît. Mais Marceau, oui, c'est un homme propre. Dans le bon sens du terme, et quelqu'un qui avait réussi à amener de la propreté dans ces guerres qui étaient quand même très cruelles. Et n'oublions jamais que les guerres de Vendée, ça c'est aparté, ça a été une boucherie sans nom. Alors nous arrivons ici dans la rue de la Bouche, moi je l'appelle la rue de la Bouche, hein, rue où évidemment on a tous nos commerces de bouche chartrains. Je pense que le samedi matin on croise beaucoup d'habitants et on va rejoindre donc notre place Estienne d'Orve. Alors, parlons de la rue de la Clouterie, qui est pas très loin, là où étaient les cloutiers. Les cloutiers, c'était les marchands de clous, les marchands de ferraille. Vous savez que c'était un métier qui était très contrôlé. Très contrôlé parce que les métaux, on pouvait fabriquer de la fausse monnaie.
Ah oui.
Donc ils étaient très surveillés, les cloutiers. D'ailleurs, on a un peu plus loin les quatre coins. Vous savez pourquoi, Christophe, on dit les quatre coins ? Parce que pour frapper des monnaies, la matrice, ça s'appelle un coin. D'où l'anglais coins, pièce.
Ils nous ont piqué des tas de mots, finalement.
Oui, et donc on avait ces coins qui servaient d'enseigne. On était à l'entrée de la rue d'échange où on avait l'échangeur de monnaie. Donc par ici, on battait monnaie. Alors bienvenue, donc rue Noël Parfait. On arrive ici dans mon petit havre de paix.
C'est vrai que c'est un quartier retiré au cœur de la fourmilière.
Mais oui, c'est un peu par là que quand on a l'effervescence de la rue de la Pie, on passe par là pour respirer un peu. Et avec ces hôtels particuliers qui sont absolument somptueux par ici, ce quartier, donc je vous avais promis l'histoire du duc de Guise. En fait, Il était dans une maison, il était venu sur Chartres. Et oui, le duc de Guise est venu à Chartres. Il est venu ici et il était donc hébergé par une veuve d'un ligueur. Vous savez, c'était la Ligue, la Grande Ligue catholique. Et cette veuve, c'était Madame d'Olive. Donc la maison d'Olive était là, juste ici. Cette maison d'Olive abrite le duc de Guise. Vous allez dire, bon, tout va bien. Il est arrivé le 1er août et Henri III, son ennemi, était au palais épiscopal.
Ils sont à côté l'un de l'autre,
presque. Ils auraient pu se saluer, d'ailleurs, parce que même s'ils étaient ennemis, on se saluait quand même, on était un peu polis. Il ne le fait pas. Mais dans la nuit du 2, on l'appelle pour lui dire « il y a le feu ». Alors le feu, je vais vous dire où il était, mon cher Christophe. Il était à l'angle de la rue Muret.
Ah, d'accord.
Vous voyez l'Aurélium ? Il était par là. Et on appelle le duc de Guise. « Venez donc !» Et les amis ligueurs qui étaient avec lui lui ont conseillé, les gardiens chartrains qui étaient avec lui, lui ont conseillé de rester là. Et ils y sont allés. Ils sont partis et en fait, il y avait un guet-apens qui était tendu pour le tuer.
Il aurait pu être tué.
Je vous le résume, hein, parce que c'est quand même, il y a pas mal d'éléments. On a minuté un petit peu tout cela, mais vous voyez, il aurait pu être tué à Chartres et non à Blois. Et on aurait été dans tous les gros livres d'histoire, là, hein, attention.
On y est quand même dans les livres d'histoire, grâce à la cathédrale.
Alors ici, donc, cette place, on est rue Saint-Martin, là. Et quand on se rapproche de la rue Saint-Martin, on aperçoit à droite, au 4, une petite porte d'entrée. Et regardez à côté du 2, vous avez un contrefort d'église. Et en fait, ici, vous aviez l'église de Saint-Martin-le-Viandier.
Il y avait combien d'églises à Chartres, là ? Mais c'est pas possible.
Oui, on avait entre église et chapelle, on était à plus de 20. Hein, c'était vraiment incroyable. Et donc ici, d'ailleurs, il y a certaines caves où il y a quelques fresques, mais parce que c'était la crypte de Saint-Martin-le-Viandier. Et le cimetière était là. Ah. Alors le problème, c'est qu'on n'enterrait pas profondément. Donc forcément, avec tous les animaux qui passaient, etc., ça commençait à devenir insalubre. Donc au XVIIIe siècle, on a déplacé le cimetière à l'extérieur de la porte des remparts, enfin de la porte des épars, pardon. C'est-à-dire, vous voyez toute la partie, impasse Bonneval, enfin rue Bonneval dans ce secteur-là. Donc on déplace le cimetière à ce niveau-là. Et puis, l'église est en très mauvais état, on se décide de la détruire. Et comme on a la paroisse Saint-Saturnin qui est à côté, finalement, ils vont aller à Saint-Saturnin. Donc voilà ce quartier.
C'est chouette, il y a une belle cour, là, une porte cochère qui est ouverte, oui, il y a une grande cour derrière.
Et derrière, c'est le parloir aux bourgeois. Ah, oui. Juste derrière. Donc, vous voyez, on a tout un ensemble. Ici, les fondations de ces maisons sont très anciennes. Hein. On est dans le quartier d'origine de Chartres. Et c'est pour ça que ce quartier est vraiment, vraiment agréable.
Et puis, il est lumineux parce qu'il y a des façades. Les façades sont claires. Là, on voit une pierre claire.
Oui. Oui. Et alors, ça, c'est toutes ces pierres blanches qui ont été très utilisées hein, à Chartres, la pierre de Berchère. Alors, vous savez que la pierre de Berchère, on l'appelle le marbre du pauvre. Parce que, si vous voyez les marches de la cathédrale, elles sont brillantes comme du marbre. Sauf qu'il y a des trous partout, donc c'est pour ça qu'on dit c'est le marbre du pauvre. Alors, ici, vous voyez ces maisons anciennes, je vais vous montrer quelque chose. On montre dans ces visites diurnes, faites attention, vous mettez les pieds. Regardez juste là, vous voyez le chanfrein de la Gouttière. En haut,
ah oui.
C'est le dernier qui est en bois, à Chartres. D'accord. C'est le tout dernier à Chartres. Et vous voyez, tout le monde pense qu'il n'y en a plus. Eh bien si, il y en a.
C'est à lui seul un monument historique.
C'est à lui seul un monument historique. C'est pour ça que moi, c'est vraiment le conseil que je donne aux gens. Promenez-vous, levez le nez, regardez partout. Il y a toujours quelque chose à voir.
Et puis surtout, n'hésitez pas à recourir au talent et au savoir de Véronique Domagalski et des autres guides conférencières de l'Office de tourisme de Chartres Métropole. Il y a de nombreuses formules de visites très différentes sur les faits divers et crimes dans le Chartres d'autrefois. Il y a une crypto-visite, c'est-à-dire que vous partirez à la découverte des symboles médiévaux de l'extérieur de la cathédrale, et puis une balade sur Chartres au XXe siècle. Informations et réservations auprès de l'Office de tourisme de Chartres Métropole, c'est www.chartres-tourisme.com. Vous pouvez aussi appeler au 02 37 18 26 23. Heureux d'avoir passé cet été avec vous et d'avoir fait en sorte de vous faire connaître un peu mieux notre bonne vieille ville de Chartres. À très bientôt.